There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Là, je veux pas
que c'est toi
que ça tire.
Ok.
On va chercher Monsieur Roger à côté.
Viens ici, nous, ma soeur, à Bidou-Javel.
Maudit hostie vierge de Giribois, de Calice, de Stie de Saint-Simonac, ça se peut-tu, un enfant de même? Quand t'as une tête de mort sur une bouteille, tu touches pas à ça.
C'est mon
otage. Roger, c'est gros occupé de grand-papa quand il est au centre.
Ça, on est pas bien bien occupé.
Il est mort.
Tu trouves une nouvelle job, finalement?
Un café 2-2.
Et moi, un grilled cheese bacon.
C'est déjà commandé un grilled cheese, la petite pendule, là.
Moi?
T'es dans la marque, ma fille.
Pourquoi tu fais passer les journaux?
Parce que je veux que mon père arrête de travailler. Comme ça, il va être heureux.
Au combat et à la victoire!
Mais l'argent fait pas le bonheur.
C'est juste les pauvres qui disent ça, maman.
Parce que tu penses qu'on est pauvres?
On peut pas dire qu'on est riche.
Ton père!
Pour être fait fort, faire ce job-là.
Ça donne bien. Je suis comme la petite mousquetaire. Et bien courageuse, tu sais, comme moi.
J'ai gagné! Ah!
Je vais jusqu'en bas de la côte.
Non. En bas de la côte, c'est un autre monde.
Essaye de pas finir toutes tes phrases par mon petit nom.
C'est à cause de Roger.
Oh, mais moi pas là-dedans. C'est vrai ce que ton père dit, puis il supposait croire que tout le monde est beau, que tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas sur quelqu'un qui en veut pas.
C'est ça que ça sert, Léon. À nous motiver à être comme eux.
Ma mère aime pas bien ben gros le monde qui sac comme toi.
Ben, c'est ta mère, ta basse-lac, c'est pas la mienne.
Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, nous invite à nous réchauffer le cœur avec une très belle programmation Ciné Franco Jeunesse, édition 2025, du 24 février au 7 mars.
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
It's morning edition from NPR News.
Nancy Keys, Andy Berhausi.
Ali, Radio Rosana Piparis.
Produce Ghetto en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Un jour dans le monde, un premier jour en 2025, déjà un quart de siècle de passé dans un monde de plus en plus incertain, secoué par de multiples crises, des guerres, des ingérences, des influences via les nouvelles technologies, sans compter l'enjeu du changement climatique. Et au milieu, un homme, Donald Trump. Son élection change la donne et elle raconte les questions qui travaillent en profondeur nos opinions publiques, mais c'est aussi un risque, Trump. Écoutez ce qu'en pense le prix Nobel d'économie, l'américain Daron Acemoglu. Il a répondu en exclusivité aux questions de France Inter.
Bien sûr que la situation est pire qu'il y a un an. Vous savez, la période actuelle est vraiment très sombre. Trump est une menace à la fois pour la démocratie américaine et pour l'ordre mondial. Il a d'ailleurs déclaré qu'il allait se débarrasser de toutes les régulations qui encadrent l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies.
Alors que nous réserve 2025 avec cet homme-là ?
Bonjour chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez dans le monde. DJ Demeura, Eric Adair et de nombreux correspondants, partenaires sont très heureux de vous retrouver pour la troisième émission de cette nouvelle année. Votre radio CUT-FM a célébré son 38e anniversaire le 15 janvier. 38 ans, ça se fête! Un immense merci à tous nos partenaires de ce dimanche Ciné Franco Jeunesse 2025, Francophonie en fête qui nous présente Bonjour Printemps, Le Créfou et sa première conférence de l'année et une première de la Tunisie, Toufik Abayeb, PDG du magazine en ligne Leaders, qui nous présente Transculturalisme et Francophonie de notre ami de toujours, Eddy Bourraoui, professeur émérite d'université, essayiste, poète, romancier, écrivain prolifique. Transculturalisme et Francophonie d'Eddy Bourraoui, qui vient de sortir. Eh oui, restez toujours digne, humble, simple et souriant. Eddy Bourraoui n'a livré ses états d'âme qu'au fil de son œuvre, palpitante, remuante, profonde. Cet ouvrage nous en offre une belle illustration. Tricontinental, trilingue et transculturel, Eddy Bourraoui, qui vit à Toronto depuis plus de 65 ans, ne cesse de nous interpeller. Lui qui a surtout enseigné à l'Université York en Ontario et a voyagé, côtoyé les francophonies du monde. Il a donné à la francophonie une expression plurielle et mis en exergue ses auteurs, jadis très peu connus. Transculturalisme et francophonie, Eddy Bourraoui sera au cœur de nos débats lors du mois de la francophonie au mois de mars sur CUT-FM. D'ailleurs, plus de détails sur transculturalisme et francophonie de Toufik Abayeb, PDG du magazine en ligne Leaders, à retrouver sur popourichaud.com. Avant de vous transporter au cœur du carnaval 2025, je dois malheureusement ou heureusement modifier notre parcours de vol pour vous parler de Trump, qui sera intronisé demain lundi 20 janvier. Et Elon Musk, son acolyte, homme très dangereux de la planète. Du Panama au Groenland, les menaces expansionnistes de Donald Trump affolent le monde. Nous recevrons Romuald Sidiora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, d'IRIS. Et Randy Yalows, avocat franco-américain, président de Republican Overseas Action. Nous revenons sur cette semaine folle qu'on vient de vivre à cause de Mark Zuckerberg, et oui, fondateur et CEO, PDG de Facebook. Sa vidéo et son revirement spectaculaire sur la modération de Facebook et d'Instagram, et oui, ça fait jaser la planète. Et son allégeance à Donald Trump et Elon Musk, nous en parlons avec Yanis Veracoufakis, économiste grec et ancien ministre des Finances du gouvernement Tsipras, et Mark Zuckerberg, fondateur PDG de Facebook. Notre partenaire Le Créfou à l'Université de Toronto, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde, vous invite à sa première conférence de l'année ayant pour thème « Différences individuelles et acquisition du français langue seconde » animée par le professeur Jeffrey Steels. Et oui, ses recherches apportent sur l'acquisition des langues secondes, la phonologie, l'expérimentale, l'évaluation des compétences chez les apprenants de langue seconde et l'acquisition de la littératie chez les jeunes élèves en immersion française. Dans cette présentation, il passera en revue les différences qui peuvent influencer la apprentissage du français en tant que langue non maternelle et les effets éventuels de certaines variables cognitives sur l'acquisition de la grammaire et de la prononciation. Cette conférence est prévue mardi 21 janvier à 17h30. Veuillez consulter le site web du CREFO ou popourichaud.com pour vous y inscrire. Marcelle Lynn, fondatrice de Ciné Franco, nous invite à nous réchauffer le cœur avec une très belle programmation Ciné Franco Jeunesse édition 2025 du 24 février au 7 mars au Cinéplex Cinemas Express Walk 5095 rue Young. Avis aux éducateurs, éducatrices, aux parents. Ce festival annuel jeunesse n'a qu'une ambition pour vos jeunes. Inspirer, améliorer la connaissance et la pratique de la langue française. S'initier aux coutumes culturelles d'un pays francophone. Débattre et penser sont mises en pratique par des dossiers pédagogiques et de classification qui œuvrent ou qui ouvrent les horizons de découverte plus larges avec l'aide des enseignants. Et chaque dimanche, Popourri Show, fier partenaire de Ciné Franco, vous présente en exclusivité les films à l'affiche au festival Jeunesse Ciné Franco Jeunesse 2025. Plus d'infos sur www.cinéfranco.com. Et à ceux et celles qui ne peuvent participer aux festivités et les carnavals des Antilles, et bien notre partenaire Francophonie en Fête vous convie très chaleureusement à la 4e édition de Bonjour Printemps, une célébration culturelle vibrante au cœur de la ville de Toronto, avec deux spectacles exceptionnels mettant en vedette des talents francophones de renommée internationale. L'humoriste Catherine Levac et le groupe folklorique Le Vent du Nord. Ces événements s'inscrivent dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars à Toronto. Deux dates importantes à retenir. Le 21 mars, l'humoriste Catherine Levac sera sur scène avec son spectacle « L'homme de ma vie », une célébration culturelle vibrante au cœur de la ville de Toronto avec deux spectacles exceptionnels, donc mettant en vedette ses deux talents francophones de renommée internationale. Et à ceux et celles qui ne peuvent participer aux festivités du carnaval des Antilles, notre partenaire Francophonie en Fête vous convie très chaleureusement à la 4e édition de Bonjour Printemps dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars. Une célébration culturelle vibrante au cœur de la ville de Toronto. Deux dates importantes à retenir. Le 21 mars, l'humoriste Catherine Levac sera sur scène avec son spectacle « L'homme de ma vie ». Le 27 mars, pour clôturer le mois de la francophonie de Toronto, Le Vent du Nord présentera son spectacle 20 printemps. Le groupe folk traditionnel célèbre deux décennies de musique invitant leurs spectateurs à un voyage sonore dans le riche patrimoine québécois. Francophonie en Fête offre deux paires de billets aux auditeurs de Popourri Show. Tirage au sort chaque semaine. C'est très simple, pour gagner vos billets, il faut absolument nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Bonjour Printemps de Francophonie en Fête pour célébrer la francophonie d'ici et d'ailleurs sur CUT 89,5 FM, la radio des musiques du monde. Et pour vous donner le goût de la fête et de la programmation de Francophonie en Fête à Bonjour Printemps, en voici un extrait.
En janvier 2025, vivez la féerie du carnaval avec la Fédé. Dimanche 12, giga ouverture avec la parade de Goyave. Dimanche 19, grand carnaval Limas à Sainte-Rose avec la GCSR. Samedi 25, la parade Woy Nimas à Marie-Galante. Dimanche 26, la carnival parade à Pointe-Noire. Le carnaval 2025, c'est avec la région Guadeloupe, la CAGSC, Vaval, Boissons aux Fruits, Capes, Glouanou, l'Express des Îles, McDonald's, Eurorépar, TV97.net, Canal 10 et Orange.
Chers amis, auditeurs, auditrices, partenaires à Toronto et du monde, je suis à ciel ouvert et en direct des parades carnavalesques de Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane et d'Haïti. Des célébrations uniques d'expression artistique libre qui ravivent la mémoire collective et mettent en lumière de manière satirique des scènes face aux défis sociaux et économiques actuels. D'ailleurs, le thème du carnaval cette année au Lamantin Martinique est résilience, un acte de résistance culturelle. Jusqu'au 5 mars, mercredi des cendres, laissez libre cours à votre imagination et créez votre propre univers. Allez, venez vibrer au rythme des tambours, des costumes éclatants et de la folie festive qui envahissent les rues. Paillettes, éclats de rire et liberté d'expression seront au rendez-vous à chaque émission pour célébrer ensemble. Et cette édition est la vôtre, unique, colorée et inoubliable. Un immense merci à nos partenaires et opérateurs principaux qui nous ont organisé et facilité notre séjour dans les Antilles. They are the best! Tout au long de notre émission, je vous invite à vous plonger dans les festivités où de nombreux touristes paradent dans les rues, vêtus de leurs plus beaux costumes au rythme des groupes à pied, des chars et des chansons populaires qui donnent un caractère unique à ces carnavals qui n'ont rien à voir au carnaval caribéen de Toronto. Carnaval 2025, en direct des Antilles, une présentation de Popourri Show, CUT 89.5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Allez, oublions le froid, l'hiver et la neige, soyons vidés.
Chamasse l'avancé. Hey, mi masse arrivé. Mi masse là. Mi masse arrivé. Mi masse là. Ça c'est fait qu'à péter sec. Mi masse là. Ça c'est moun la crier. Mi masse là. On ne veut pas de la violence, on veut sauter. Sauter, sauter.
La nouvelle génération nous regarde. Elle attend un transport aérien plus responsable. C'est difficile et cela prendra du temps. Est-ce une raison pour renoncer ? Non, bien au contraire. Nous accélérons nos efforts. D'ici 2030, nous aurons réduit de 30% nos émissions de CO2 par passager et par kilomètre. Pour que demain, nos enfants continuent de regarder le ciel avec émerveillement.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
De 11h à 13h, Potpourri Chaussures, CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Quelle sera la place des francophones, des autochtones et de la langue française sous l'ère Trump 2.0? Faut-il prendre au sérieux les menaces de Donald Trump? Faut-il le croire? Lui qui sera au pouvoir, lui qui sera intronisé demain, joue sur un terrain ambigu. Il a des velléités impérialistes, car il sait que les frontières sont politiques et les cartes mouvantes. Comme l'a rappelé la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, le sud des États-Unis a déjà été mexicain. Et nous, qui sommes profondément nord-américains, avons exploré leur pays jusqu'à la Louisiane, envoyé plus de 1 million de Canadiens français dans les usines de la Nouvelle-Angleterre au début du XXe siècle. Trump, un intimidateur, et il est en roue libre. Qui pourra l'arrêter? On pourrait même dire qu'il est en voie de poutinisation. Vladimir Poutine, qu'il a admiré, juré ne pas vouloir envahir l'Ukraine, mais on connaît la suite. Demain, c'est le jour J pour la planète, avec un parti libéral fracturé à la tête du Canada. Même le nouveau chef, qu'on nous promet le 9 mars prochain, ne sera pas, à mon avis, à la hauteur et aux attentes des provinces et des Canadiens pour tenir tête à Trump. Ce qui arrive à ces jours-ci aux États-Unis nous force à réfléchir à la personnalité de celui qui occupera la Maison-Blanche demain, 20 janvier. Il faut espérer que les institutions démocratiques américaines jouent leur rôle, l'encadrent solidement, que Trump n'arrive pas à imposer ses politiques dangereuses à exécution. S'il maintient le cap, les années du deuxième mandat de Donald Trump seront spectaculaires. Du Panama au Groenland et le Canada, les menaces expansionnistes de Donald Trump affolent le monde. C'est le titre de ce qui s'en vient sur France Inter, qui nous présente une édition spéciale avec Romuald Ciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, et Randy Yalos, avocat franco-américain, président de Republican Overseas Action. Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, au Canada pour le moment, jusqu'à nouvel ordre.
Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage, ce soir, du Panama au Groenland, les menaces expansionnistes de Donald Trump qui affolent le monde. Moins de deux semaines avant son retour à la Maison-Blanche, le président élu américain multiplie les menaces d'annexion, allant même jusqu'à évoquer un recours à la force pour faire main basse sur le canal de Panama et le Groenland. et promettant par ailleurs une guerre économique à son grand voisin canadien si ce dernier refuse de devenir le 51e État américain. Provocation ou menace réelle, ces revendications territoriales, ce nouvel impérialisme américain consternent et inquiètent le monde, à commencer par les dirigeants européens qui ont mis en garde hier contre toute violation de leurs frontières. Mais que cherche donc Donald Trump en multipliant ces déclarations hostiles? Entre provocation et volonté de garantir les Américains, jusqu'où ira-t-il? On fait le point ce soir avec nos invités, en ligne avec nous de New York, Romuald Sciurra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, et qui publie dans quelques jours « L'Amérique éclatée » aux éditions Armand Collin. Bonsoir.
Bonsoir.
Également en ligne, Randy Yalouz, avocat franco-américain et président de Republican Overseas France. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Et bienvenue à tous les deux sur RFI. Randy Yalouz, si vous me pardonnez l'expression, quelle mouche a donc piqué Donald Trump avec ses menaces d'annexion brutale et qui plus est à la veille de son investiture?
D'abord, Monsieur Trump est connu et suit sa position qu'il a adoptée depuis le début, c'est la provocation. C'est un maître de la provocation, de la communication, afin de déstabiliser non seulement ses alliés avec qui il doit aussi faire face pour reconfigurer les politiques étrangères des États-Unis suite à un mandat des 4 ans de M. Biden, mais en plus, et on oublie de le dire, le fait que vous faites cette émission et comme d'autres médias, il choque tout le monde, surtout ses alliés. Si les alliés sont choqués par la position de Trump, vous oubliez de dire, c'est surtout ces messages qu'il renvoie à M. Trump, à ses adversaires, la Russie et la Chine et l'Iran. C'est pour leur faire comprendre que regardez ce que je fais avec mes amis, demain je ferai pire avec vous et vous saurez ce qui vous attend si vous êtes vous vous alignez pas sur la politique que je propose entre nous pour que les choses soient plus claires et plus justes au niveau géopolitique, bien entendu dans l'intérêt de l'Amérique, mais il se positionne et ça a fonctionné. On peut avoir déjà constaté vis-à-vis de la Mexique. La Mexique a déjà mis en place avec ses forces militaires dans le sud et dans le nord. Il empêche l'immigration de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale vers les États-Unis. Ils ont commencé à se mettre d'accord déjà avec l'équipe de Trump d'envisager des camps éventuellement de déportation sur le territoire mexicain, même pas pour des personnes des nationalités mexicaines, mais aussi des personnes d'autres nationalités.
Donc, la diplomatie de Trump, c'est de brutaliser ses alliés, vous dites, pour envoyer un message à la Russie et à la Chine?
Oui, mais brutaliser aussi, c'est qui il brutalise? Je vous dirais, il a plusieurs soucis. Il a eu un souci notamment avec M. Trudeau, avec qui il a eu déjà des frictions depuis la fin de son mandat. Et c'est avec quelqu'un qu'il n'a pas respecté. Et demain, il doit engager des discussions et des échanges avec le gouvernement canadien. Il a créé une crise politique au Canada qui a permis d'écarter M. Trudeau en tant que premier ministre. Donc, il arrive à faire évoluer la situation chez les États-Unis. Et surtout, qu'est-ce que les messages d'envoi au gouvernement et canadien? Il envoie un message, trouvez-moi quelqu'un avec qui je peux négocier, avec qui on peut trouver des accords qui sont des accords mutuellement acceptables et n'est pas tourné avec la politique qui a été mise en place depuis des années, qui était contre les intérêts américains.
Romuald Sciurra, est-ce que vous avez été surpris par ces revendications territoriales de Donald Trump, lui qu'on pensait isolationniste et qui se révèle soudainement expansionniste?
Oui, pas vraiment surpris. Cela faisait déjà un petit moment qu'il revendiquait le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Non, ce qui a été plus surprenant hier, c'est la rhétorique. C'est cela pour plusieurs raisons. Prenons le Groenland. Je ne pense pas que Trump puisse décider d'annexer militairement le Groenland dans les prochaines années.
Qui est européen, on le rappelle.
Par contre, Exactement. Par contre, et on est passé dans une toute autre dimension. Pourquoi ? Trois choses. Un, comme vous venez de le dire, le Groenland est européen. C'est-à-dire que le Groenland appartient est un territoire autonome du Danemark, membre de l'OTAN. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, un membre de l'OTAN, son membre le plus puissant, le membre fondateur, menace un autre membre de l'Alliance d'annexer militairement une partie de son territoire. C'est du jamais vu.
C'est
si Trump
inouï.
Devait mettre ses menaces à exécution, imaginez ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que normalement, l'ensemble des autres pays de l'OTAN devraient attaquer les États-Unis. Évidemment, on ne va pas y arriver. Néanmoins, il vient une fois encore de porter un coup fatal à l'Alliance Atlantique et au système multilatéral. Deuxième point capital et qui est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est la première fois qu'un chef d'État occidental depuis le milieu du XXe siècle, depuis avant la Seconde Guerre mondiale, parle d'annexion militaire sans se draper sous le prétexte hypocrite d'exporter la démocratie, les droits de l'homme, etc. Même les pires dictateurs du jour, Vladimir Poutine, se cachent sous le prétexte lors de l'invasion d'Ukraine de libérer Kiev des dirigeants nazis, alors que le président est juif, mais bon, ça c'est autre chose. Xi Jinping parle de récupérer Taïwan afin de réunir les frères chinois. Trump, il va cash. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, il parle d'espace vital pour les États-Unis, de nécessité économique, etc. Plus besoin de prétextes hypocrites. Donc rien que ça, c'est évidemment du jamais vu en ce qui concerne le Groenland. Si vous voulez, on peut parler du Canada et du Panama.
Est-ce que c'est, comme l'estime le ministre des Affaires étrangères français, le retour de la loi du plus fort ?
Oh bah oui, tout à fait. On est, alors une fois encore, je ne pense pas que Trump mettra ses menaces à exécution concernant le Groenland, si on entend bien le Groenland. Mais oui, c'est la loi du plus fort. Et nous entrons également dans une autre dimension qui est, même si Trump, effectivement, comme je dis, ne mettra pas prochainement et lors de son mandat ses menaces à exécution concernant le Groenland, et je précise le Groenland,
on entre
dans une nouvelle ère, c'est-à-dire dans une ère où les ressources naturelles vont commencer à se raréfier de plus en plus, et d'ici 20, 30, 40 ans, dans un ordre géopolitique totalement différent et déstabilisé, où effectivement c'est le plus fort qui fera la loi, à ce moment-là, le Groenland, mais aussi le Canada, et je fais partie de l'Université du Québec à Montréal comme membre associé, je peux vous dire que mes collègues y réfléchissent sérieusement, le Canada également pourrait, à longue échéance, j'entends sur plusieurs décennies, se poser des questions sur le danger potentiel que pourraient alors représenter des États-Unis assoiffés de ressources naturelles.
Randy Yalloz, est-ce que Donald Trump peut mettre ses menaces à exécution, à votre sens ?
Avec tout respect que je dois à votre commentateur, je crois aussi que c'est la provocation, son analyse. Je pense que il dit, l'idéal pour lui, c'est de créer des alliances stratégiques. Groenland entre dans les sphères stratégiques et surtout dans le territorial, l'espace qui est pour l'Amérique très important. On sait bien qu'à l'avance, que l'Amérique considère que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ça doit être préservé. C'est son jardin, j'ai une expression en français, j'ai oublié.
Sphère d'influence des États-Unis.
Oui, c'est la sphère d'influence proche de l'États-Unis qui on considère et qui s'est étendue. Mais pourquoi vers le nord? Il y a deux aspects. Il faut au niveau du commerce international avec le changement climatique, les trafics maritimes a augmenté de 40 à 50% depuis 10 ans à travers le cercle arctique. Première chose. Deuxième chose, c'est au niveau défensif. Il y a bien sûr des minéraux, il y a des intérêts économiques à Groenland, mais c'est surtout au niveau défensif. On est dans une nouvelle ère avec, on a vu les missiles balistiques et avec l'évolution de la balistique hypersonique qui pose problème. Il faut revoir aujourd'hui les systèmes défensifs anti-balistiques. Et qui va passer, bien entendu, que toute la guerre, les nerfs de la guerre, il faudra avoir des bases et prévoir, parce que toutes les missiles passent par au niveau arctique, et ça, c'est bien entendu, ça va être renforcé avec le Canada, etc. Mais surtout, aujourd'hui, il a un discours très, très fort. Il doit impressionner non seulement il doit revoir avec ses affaires, parce qu'il va demander des concessions aux pays de l'OTAN. Et il a déjà dit il souhaite des investissements plus importants, il souhaite que les choses évoluent au sein...
Que refuse déjà l'Allemagne. Hein.
Oui, mais ça, c'est une période, ça va aussi, c'est une remise en question. Je pense que la période avec Trump, c'est un réel politique pour l'Europe. Aujourd'hui, la passivité de l'Europe, malheureusement, parce qu'on voit que l'Europe est incapable de faire face tout seul à la Russie, et que chaque fois, si on regarde même la question du Proche-Orient, si on regarde l'implication, les Américains sont impliqués, la France a une base militaire aussi en Irak et Syrie, et on voit que les Suez Canal, le canal de Suez, c'est la même chose. Ça protège qui? La plupart du trafic est pour l'Europe. Mais c'est les Américains qui protègent ces trafics maritimes qui passent par là. Aujourd'hui, il y aura des vraies questions qui vont se poser. C'est qu'est-ce que vous, les Européens, pouvez faire pour protéger vos propres intérêts? Aujourd'hui, vous dépendez trop des Américains. Donc, il y aura des questions à revoir par rapport à cela, et qu'aujourd'hui, les Américains doivent revoir. Il va se tourner vers les intérêts américains, et je pense que c'est tout à fait légitime de sa part, parce qu'il voit que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, on doit aussi la question de ses alliés. Les alliés, ils ont eu une administration assez passive. Pourquoi passive? Et Biden a promis pas mal de choses, mais il n'a rien fait. Concrètement, il a laissé la situation rester telle qu'elle est. Il n'a rien fait évoluer au niveau de la situation. Aujourd'hui, Trump dit, je veux revoir ma copie. On paye trop. Je souhaite que les alliés investissent plus. Et que je pense que les réinvestissements tant économiques et défensifs vont permettre à l'Europe de se renforcer. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, ces réinvestissements.
Romald Sciurra, quelle peut être la réaction des Européens? On a vu hier la levée de boucliers concernant la question du Groenland. Est-ce qu'on peut en espérer un électrochoc, obliger l'Europe à se bouger?
Alors tout d'abord, je pense que j'ai peut-être pas été clair ou que votre invité n'a pas bien compris mon propos. Je n'ai jamais dit que Trump allait envahir le Groenland et encore moins le Canada. J'ai tout simplement dit que nous étions rentrés hier avec cette rhétorique dans une nouvelle ère où un membre de l'OTAN menace, car il faut quand même appeler les choses telles qu'elles sont, il a quand même menacé d'une intervention militaire un autre pays membre de l'OTAN. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où le président des États-Unis ne se cache plus derrière des prétextes droit-mlomistes ou d'expansion de la démocratie, et où il menace frontalement un pays membre de l'OTAN alors qu'il est le membre fondateur de l'OTAN. Pour le Canada, j'ai dit que le danger était sur plusieurs décennies, et tout intellectuel, tout universitaire sérieux doit prendre en considération les choses, et c'est pourquoi l'on pourrait voir un infléchissement, et je vais en venir à l'Europe, un infléchissement de la politique canadienne au cours des prochaines années et des prochaines décennies, qui pourrait se tourner plus vers l'Union européenne que vers les États-Unis, en comprenant qu'éventuellement, les États-Unis pourraient être représentés une forme de danger d'ici plusieurs décennies. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter de dire en 2016, Trump ne sera jamais élu. En 2021, le 6 janvier, Trump ne pourra jamais plus faire de politique. Et il y a quelques mois, Trump ne sera jamais président. L'histoire bouge, la géopolitique est en plein mouvement, l'ordre international d'aujourd'hui est en déliquescence. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, pour ce qui est de l'Union européenne, non, malheureusement, et je le regrette, je suis franco-américain, comme vous le savez sans doute, je regrette que l'Europe ne puisse pas répondre d'une seule voix. On a encore vu ce matin, si je ne me trompe, le ministre des Affaires étrangères britannique, ou en tout cas un porte-parole du gouvernement britannique, a dit « no comment », nous ne voulons pas commenter les propos de notre principal allié. Certains, effectivement, le ministre français des Affaires étrangères a arrivé dans les brancards, ainsi que d'autres représentants européens.
Mais pas l'italienne Meloni, par exemple.
Ben voilà, on a quand même un peu l'impression, pardonnez-moi l'expression, que tout le monde baisse un peu culotte devant le nouvel empereur d'Occident. Je ne crois pas, et je le regrette, à un sursaut européen majeur au cours des prochains mois. Alors peut-être au cours des prochaines années, et de toute façon, votre invité a tout à fait raison lorsque il parle de la nécessité pour les Européens de se réveiller. Peut-être que si Trump va plus loin encore dans ces projets de taxation, etc., etc., de guerre commerciale avec l'Europe. Peut-être que nous verrons un sursaut européen, mais malheureusement, pardonnez-moi d'avoir des doutes, au moment où le nationalisme monte un petit peu partout en Europe, mais aussi en Occident, on le voit au Canada, je crains que le réveil, le sursaut européen ne soit pas pour demain.
Randy Yalloz, on a quand même bien l'impression que l'Europe est particulièrement dans le viseur de la future administration américaine. Il y a donc ces menaces de Trump, et il y a également l'activisme diplomatique d'Elon Musk qui déstabilise les Européens, notamment dans son soutien aux extrêmes droites, au Royaume-Uni, en Allemagne.
Vous considérez que ça va être extrême droite Personne, les différents partis peuvent estimer que c'est des patriotes et pour peut-être un réalignement. AfD, oui, il y a des problèmes, ils ont des questions avec l'antisémitisme, mais oui, il y a des problèmes avec des personnes au sein du parti de l'AfD. Ça, c'est des choses à résoudre, mais comme on peut dire, à un moment donné, quand il y avait Madame Meloni aussi, on avait dit la même chose, c'est les droits durs. C'est aussi, donc, on est en train de revoir que les partis de droite se réveillent et qu'il y a un soutien plus accentué de la part des supporters de Trump autour de ces différents futurs éventuellement alliés. Et je pense que c'est normal quelque part parce que les démocrates ont joué ce jeu depuis le début. Il faut le savoir. À l'époque, M. Macron était aussi dans la course présidentielle, je crois que c'était en 2016. Il s'est rapproché de M. Obama. M. Obama est intervenu pour le soutenir. Donc, c'est aussi les démocrates jouent le jeu de soutenir des candidats du centre, de gauche, dans les différents pays. Donc, ce n'est pas des choses qui sont inattendues. Il ne faut pas tout de suite dire que M. Farage doit dire, oui, c'est un droit patriotique, il a une vision différente, comme on aurait pu dire qu'il y a 6 mois, 1 an que j'étais sur votre émission, je ne me souviens plus exactement, on a parlé de Trump et vous avez le même discours, alors que maintenant, vous regardez, son victoire était assez conséquent aux États-Unis, très décisif, et que aujourd'hui, on peut pas dire que la plupart des Américains soutiennent M. Trump et sa politique, ils sont derrière. Vous avez vu même la transition entre les deux administrations montre que tout le monde va faire confiance à Trump et ils sont en train de voir comment ils vont gérer la future politique de l'Amérique ensemble. Et je pense qu'on trouvera des terrains d'entente avec les démocrates. Donc, il faut dire qu'il y a une évolution, oui, vers la droite, peut-être la droite un peu plus dure, mais il faut passer pas dans l'exagération. Et je pense que ça peut aussi, j'estime que l'influence, il peut être positive. Je pense qu'il faut pas tout de suite dire, Monsieur Musk a soutenu. Je crois que Monsieur Trump ou Monsieur Musk ou les autres essaient d'influencer les choses pour faire bouger les choses. Faire bouger, c'est très bien de faire bouger les choses parce que sans changement, on verra pas nouvelles perspectives.
Et ça risque. Et ça risque de bouger, Romuald Sciorra, tout ça, ça laisse présager un mandat agité. Donald Trump sur la scène internationale, en quelques mots.
Oui, en quelques mots, je voudrais juste revenir sur ce que notre interlocuteur vient de dire en deux mots. Il n'a pas totalement tort quand il parle du bilan déplorable de l'administration Biden quant aux relations internationales. Le chaos dans lequel nous nous trouvons, c'est quand même les démocrates qui en sont responsables. Oui, un mandat très agité, débats à venir.
Et que nous commenterons sur RFI.
On en saura un peu plus à partir du 21.
Merci Romuald Sciorra, en direct de New York, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, et merci à Randy Yalloz, président de Republican Overseas France.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
I'm a man, one love, one.
Adrabella cosa, ding e dong.
Non è tanto.
Ding e dong.
Écoutez la planète chanter.
Carnaval 2025. Ah, oubliez l'hiver, le froid. Pour vous dépayser un peu, je vous invite, madame, monsieur, à me suivre aux festivités carnavalesques. Chaque dimanche jusqu'au mercredi des cendres, jour où l'on enterre Vaval, roi du carnaval des Antilles. Le grand lancement et les défilés spectaculaires ont eu lieu le 5 janvier dernier dans plusieurs îles des Antilles, notamment en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. Si le carnaval se veut comme un temps de fête, il permet également à la population de passer des messages politiques, souvent sous l'angle de la dérision. Le thème du carnaval cette année au Lamantin, Martinique, est résilience. Chaque dimanche, un mot, une phrase, un invité, un reportage, pour vous expliquer le concept du carnaval des Antilles. Bon carnaval 2025! de 11h à 13h. Popourri Chaussures, CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Notre partenaire le CREFO à l'Université de Toronto, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde, vous invite à sa première conférence de l'année ayant pour thème « Différences individuelles et acquisition du français langue seconde » animée par le professeur Jeffrey Steels. Et oui, ses recherches apportent sur l'acquisition des langues secondes, la phonologie, l'expérimentale, l'évaluation des compétences chez les apprenants de langue seconde et l'acquisition de la littératie chez les jeunes élèves en immersion française. Dans cette présentation, il passera en revue les différences qui peuvent influencer l'apprentissage du français en tant que langue non maternelle et les effets éventuels de certaines variables cognitives sur l'acquisition de la grammaire et de la prononciation. Cette conférence est prévue mardi 21 janvier à 17h30. Veuillez consulter le site web du CREFO ou popourrichaud.com pour vous y inscrire. Point de neuf, les cafés du CREFO. Et oui, nos amis du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Avec la soif d'apprendre, un membre du CREFO s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/CREFO ou tout simplement popourrichaud.com. Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Une ouverture sur le monde. En voici un extrait du dernier épisode.
Dans cet épisode, Marie-Paul Lurie, directrice par intérim du CREFO, rencontre Emmanuel Lepichon, professeur agrégé à l'Université de Toronto.
Ah, et il a dit que c'est exactement le contraire de ce que l'école devrait faire. L'école devrait ajouter et pas retirer. Et c'est exactement ça. Alors, toute la question est de savoir comment ajouter tout en tenant compte des limites des enseignants.
Bienvenue à Quoi de neuf.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez dans le monde. DJ Demeura, Eric Adair et de nombreux correspondants, partenaires, sont très heureux de vous retrouver pour la troisième émission de cette nouvelle année. Votre radio CUT FM a célébré son 38e anniversaire le 15 janvier. 38 ans, ça se fête. Un immense merci à tous nos partenaires de ce dimanche, Ciné Franco Jeunesse 2025, Francophonie en fête, qui nous présente Bonjour Printemps, le CREFO et sa première conférence de l'année, et une première de la Tunisie, Tufik Abayem, PDG du magazine en ligne Leaders, qui nous présente transculturalisme et francophonie, de notre ami de toujours, Eddy Bourawi, professeur émérite d'université, essayiste, poète, romancier, écrivain prolifique. Transculturalisme et francophonie d'Eddy Bourawi, qui vient de sortir. Eh oui, restez toujours digne, humble, simple et souriant. Eddy Bourawi n'a livré ses états d'âme qu'au fil de son œuvre, palpitante, remuante, profonde. Cet ouvrage nous en offre une belle illustration. Tricontinental, trilingue et transculturel, Eddy Bourawi, qui vit à Toronto depuis plus de 65 ans, ne cesse de nous interpeller. Lui qui a surtout enseigné à l'Université York en Ontario et a voyagé, côtoyé les francophonies du monde. Il a donné à la francophonie une expression plurielle et mis en exergue ses auteurs, jadis très peu connus. Transculturalisme et francophonie, d'Eddy Bourawi sera au cœur de nos débats lors du mois de la francophonie au mois de mars sur CUT-FM. D'ailleurs, plus de détails sur transculturalisme et francophonie de Tufik Abayeb, PDG du magazine en ligne Leaders, à retrouver sur popourishow.com. Avant de vous transporter au cœur du carnaval 2025, je dois malheureusement ou heureusement modifier notre parcours de vol pour vous parler de Trump, qui sera intronisé demain lundi 20 janvier, et Elon Musk, son acolyte, homme très dangereux de la planète. Du Panama au Groenland, les menaces expansionnistes de Donald Trump affolent le monde. Nous recevrons Romuald Sidiora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, d'IRIS, et Randy Yalows, avocat franco-américain, président de Republican Overseas Action. Nous revenons sur cette semaine folle qu'on vient de vivre à cause de Mark Zuckerberg, et oui, fondateur et CEO, PDG de Facebook. Sa vidéo et son revirement spectaculaire sur la modération de Facebook et d'Instagram, et oui, ça fait jaser la planète. Et son allégeance à Donald Trump et Elon Musk. Nous en parlons avec Yanis Veracoufakis, économiste grec et ancien ministre des Finances du gouvernement Tsipras, et Mark Zuckerberg, fondateur PDG de Facebook. Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, nous invite à nous réchauffer le cœur avec une très belle programmation Ciné Franco Jeunesse édition 2025 du 24 février au 7 mars au Cinéplex Cinemas Express Walk, 5095 rue Young. Avis aux éducateurs, éducatrices, aux parents. Ce festival annuel jeunesse n'a qu'une ambition pour vos jeunes. Inspirer, améliorer la connaissance et la pratique de la langue française. S'initier aux coutumes culturelles d'un pays francophone. Débattre et penser sont mises en pratique par des dossiers pédagogiques et de classification qui œuvrent ou qui ouvrent les horizons de découverte plus larges avec l'aide des enseignants. Et chaque dimanche, Popourri Show, fier partenaire de Ciné Franco, vous présente en exclusivité les films à l'affiche au festival Jeunesse Ciné Franco Jeunesse 2025. Plus d'infos sur www.cinéfranco.com.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Et à ceux et celles qui ne peuvent participer aux festivités du carnaval des Antilles, notre partenaire Francophonie en Fête vous convie très chaleureusement à la 4e édition de Bonjour Printemps, dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars. Une célébration culturelle vibrante au cœur de la ville de Toronto. Deux dates importantes à retenir. Le 21 mars, l'humoriste Catherine Levac sera sur scène avec son spectacle « L'homme de ma vie ». Le 27 mars, pour clôturer le mois de la francophonie de Toronto, le Vent du Nord présentera son spectacle « 20 printemps ». Le groupe folk traditionnel célèbre deux décennies de musique invitant leurs spectateurs à un voyage sonore dans le riche patrimoine québécois. Francophonie en fête offre deux paires de billets aux auditeurs de Popourri Show. Tirage au sort chaque semaine. C'est très simple, pour gagner vos billets, il faut absolument nous envoyer un message à popourri@cut.fm. Bonjour printemps, de francophonie en fête pour célébrer la francophonie d'ici et d'ailleurs. Sur CUT 89,5 FM, la radio des musiques du monde.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeur et locuteur, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse, et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues, ma structure grammaticale est à repart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie, je suis la langue française, je suis la francophonie.
Chers amis, auditeurs, auditrices, partenaires, à Toronto et du monde, je suis à ciel ouvert et en direct des parades carnavalesques de Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane et d'Haïti. Des célébrations uniques d'expression artistique libre qui ravivent la mémoire collective et mettent en lumière de manière satirique des scènes face aux défis sociaux et économiques actuels. D'ailleurs, le thème du carnaval cette année au Lamantin Martinique est « Résilience ». Un acte de résistance culturelle. Jusqu'au 5 mars, mercredi des cendres, laissez libre cours à votre imagination et créez votre propre univers. Allez, venez vibrer au rythme des tambours, des costumes éclatants et de la folie festive qui envahissent les rues. Paillettes, éclats de rire et liberté d'expression seront au rendez-vous à chaque émission pour célébrer ensemble. Et cette édition est la vôtre, unique, colorée et inoubliable. Un immense merci à nos partenaires et opérateurs principaux qui nous ont organisé et facilité notre séjour dans les Antilles. They are the best. Tout au long de notre émission, je vous invite à vous plonger dans les festivités où de nombreux touristes paradent dans les rues, vêtus de leurs plus beaux costumes au rythme des groupes à pied, des chars et des chansons populaires qui donnent un caractère unique à ces carnavals qui n'ont rien à voir au carnaval caribéen de Toronto. Carnaval 2025, en direct des Antilles, une présentation de Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Allez, oublions le froid, l'hiver et la neige. Soyons vidés.
En janvier 2025, vivez la féerie du carnaval avec la Fédé. Dimanche 12, giga ouverture avec la parade de Goyave. Dimanche 19, grand carnaval Limas à Sainte-Rose avec l'AGCSR. Samedi 25, la parade Woy Nimas à Marie-Galante. Dimanche 26, la carnival parade à Pointe-Noire. Le carnaval 2025, c'est avec la région Guadeloupe, la CAGSC, Vaval, Boisson aux Fruits, Capes, Glouanou, l'Express des Îles, McDonald's, Eurorepa, TV97.net, Canal 10 et Orange.
Merci, 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 merci. Positif en énergie, l'étoile d'Alkinon, ouais. Je t'ai dit pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Tu n'es même pas exemplaire, mais tu t'occupes de mes affaires. Mets-toi de ton derrière si tu n'as vraiment rien à faire. Déjà tu n'es pas ma mère, tu ne fais rien pour moi d'ailleurs. Quand j'ai besoin d'argent, je me sers de ma carte bancaire. Mais leur a dit, tu es bien culotté. À part me surveiller, t'as pas trouvé un autre métier.
Voilà.
Ah, il faut changer ton comportement. Change ton comportement. Change ton comportement pour faire honneur à ta maman. Mais pourquoi tu fais ça?
C'est pourquoi tu fais ça?
C'est pourquoi tu fais ça? Non mais franchement, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment du n'importe quoi. Je n'aime pas le macrélin, ça me rend vulgaire et sauvage.
Voilà.
Les petits pomeras, sincèrement, c'est pas de mon âge. Quand je veux manger et boire, c'est pas toi que je vais voir. Alors pourquoi tout ce que je fais, tu as envie de le savoir? Je ne
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI, 13h en temps universel, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie de RFI Midi, dans quelques minutes après le journal, entretien avec le chef de mission de l'OIM en Haïti pour parler des déplacés toujours plus nombreux à cause de la violence des gangs. On évoquera aussi l'avenir des États-Unis. Le modèle américain tel qu'on le connaît pourrait bien succomber sous les coups de boutoir de Donald Trump et de son meilleur allié et soutien Elon Musk. C'est en tout cas la thèse de notre invité. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure des questions qui entourent l'évolution institutionnelle des départements d'Outre-mer.
Oui, et de la tribune envoyée par le président de la collectivité territoriale de la Guyane, Gabriel Serville, qui semble douter assez fortement de la motivation de l'État.
À tout à l'heure.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous vous en parlions hier sur cette antenne. Le nombre de personnes qui fuient les violences atteint des niveaux de plus en plus alarmants en Haïti. Plus d'un million ont dû quitter leur maison en 2024. C'est trois fois plus que l'année précédente. À cause des gangs, des attaques plus fréquentes et plus brutales. Mais se déplacer ne signifie même pas retrouver la sécurité et encore moins des conditions de vie meilleures. Écoutez Grégoire Goodstein, chef de mission en Haïti de l'Organisation internationale pour les migrations. Il explique à Christophe Paget où fuient ces Haïtiens et où ils s'installent.
Ils partent des quartiers qui sont un petit peu en périphérie de la capitale. Soit ils essayent de se recentrer dans les zones sécurisées de la capitale, une zone qui est maintenant assez restreinte. Je crois qu'il n'y a plus que 15% de la capitale qui est considérée comme zone sécurisée. Et puis, il y en a d'autres qui partent en province, notamment dans le sud et un petit peu vers le nord. Mais le nord est de plus en plus sujet aux attaques des gangs parce que les gangs se sont déplacés un petit peu vers les provinces du nord.
Ceux qui restent dans la capitale, mais qui donc, vous l'avez dit, se déplacent, ils vont dans des camps dont le nombre a beaucoup augmenté en un an?
Voilà, il y a eu une augmentation du nombre de camps, on appelle ça des sites en Haïti. Entre juin et décembre, on est passé de 117 sites à 142 sites. La plupart de ces sites sont à Port-au-Prince même. On est à 108 sites à Port-au-Prince et 34 en province. Et donc les gens partent là où ils pensent soit avoir des liens avec les communautés, soit avec la famille. Le problème avec le déplacement en province, c'est que comme vous le savez, il y a les gangs qui encerclent la capitale et donc il faut traverser les checkpoints qui sont établis par les gangs et donc c'est des risques. Dans la mesure du possible, les gens essayent de rester sur Port-au-Prince, mais le problème c'est qu'il y a maintenant, avec la zone sécurisée qui est de plus en plus amoindrie, il y a de moins en moins d'opportunités de logement. Et du coup, il n'y a plus vraiment d'options pour les personnes qui sont déplacées.
Et dans les camps de Port-au-Prince, où vont une partie de ces personnes, comment sont les conditions de vie? Est-ce qu'en un an, elles se sont dégradées?
Oui, la situation s'est dégradée. Il y a un certain nombre de ces camps qui sont hors radius de sécurité. Donc, difficile d'accès, difficile en termes d'assistance, que ce soit pour la nourriture, pour l'eau, la sanitation, les choses de base dont ont besoin les personnes déplacées. Et du coup, oui, la situation se dégrade et la possibilité de les atteindre est réduite.
Les déplacés, lorsqu'ils quittent la capitale, Port-au-Prince, ils sont accueillis par qui?
La majorité des personnes qui partent en province sont dans des familles d'accueil. Soit des familles que ces personnes connaissent ou des familles qui, par solidarité, les accueillent et qui partagent donc leur maison.
Et ces familles sont déjà dans des situations difficiles.
Surtout que la situation de crise dure depuis 2 ans et plus. Donc les familles qui accueillent sont aussi en difficulté. Donc c'est pas seulement les personnes déplacées internes qui ont besoin d'assistance, mais c'est aussi celles qui les accueillent. Donc...
le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand pour parler de la collectivité territoriale de Guyane, son président s'interroge sur la volonté de l'État en matière d'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer.
Dans une tribune libre, Gabriel Serville semble douter assez fortement de la motivation de l'État, que ce soit d'ailleurs au niveau du président de la République ou au niveau du gouvernement. Tribune lue pour nous par Nickerson Perdius.
Gabriel Serville propose de jeter un regard sur les deux alinéas du préambule de la Constitution de 1958. Pour lui, il y a, je cite, une contradiction flagrante dans le sens où le premier alinéa évoque le peuple français, tandis que le second évoque les peuples des territoires d'outre-mer. Fin de citation. Pour le président de la collectivité majeure de Guyane, la rédaction laisse sous-entendre que les citoyens ultramarins seraient des citoyens de seconde zone. Une ambiguïté qui ne serait pas sans conséquence dans la manière dont nos territoires seraient gérés. Paris entretiendrait des relations à forte dose paternaliste, souvent teintées de relents d'un colonialisme que l'on croyait aboli, a-t-il déclaré. Pour Gabriel Serville, il est urgent de faire évoluer à la fois le préambule et le corps de la Constitution. Il fait référence au projet d'évolution institutionnelle de la Guyane dans la conclusion de sa tribune et s'interroge quant à la participation à, je cite, un énième CIOM, comité interministériel des Outre-mer, dont on sait que les conclusions ne seront jamais à la hauteur des espoirs portés par les élus et la population. Fin de citation.
On passe à un tout autre sujet, l'avenir de la PDG du groupe Air Caraïbes French Bee, avenir qui serait en train de s'assombrir, selon en tout cas le magazine Challenge. Franck Aristide de la Première Guadeloupe.
À 80 ans, le fondateur du groupe, Jean-Paul Dubreuil, aurait tapé du poing sur la table. Il ne serait pas d'accord avec sa PDG sur la façon dont elle gère les compagnies qu'il a fondées. Parmi ses griefs, notamment le déclassement d'Air Caraïbes en matière de ponctualité et d'efficacité du service client. 56 places de perdues en un an. Mais selon nos indiscrétions, la stratégie économique de sa PDG pourrait également être dans son collimateur. Trop de dépenses, pas assez de recettes. Enfin, selon le magazine Challenge, des différends avec la fille Dubreuil, jusque-là en charge de la communication, du service à bord et des sujets commerciaux, pourraient aussi avoir scellé le sort de Christine Oumière-Widner, même si pour le moment, le groupe explique que la décision de l'écarter n'est pas encore actée. Pour mémoire, Christine Oumière-Widner avait été nommée à la tête des deux compagnies en juillet 2023, en remplacement de Marc Rocher, devenu administrateur après 20 ans de bons et loyaux services. Elle venait d'être débarquée de la compagnie portugaise TAP qu'elle dirigeait.
Bon après-midi, Anne.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, TEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Vous êtes Zouk, vous êtes Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM.
Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CIUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
Marcelle Lynn, fondatrice de Ciné Franco, nous invite à nous réchauffer le cœur avec une très belle programmation Ciné Franco Jeunesse, édition 2025, du 24 février au 7 mars.
Zoé, l'école.
J'irai pas. J'en ai marre.
C'est notre nouvelle maison.
Vous êtes rapide, non?
Comment tu sais?
À cause de ses longues pattes. Il est fait pour courir.
Ça, c'est le départ. Quand je dis 1, 2, 3, partez, tu pars. 1, 2, 3, partez! Allez, allez! Cours, cours! Si c'est comme ça, je rentre. T'es vraiment pourri. Bravo, t'es un champion!
T'en veux combien, ton dromadaire?
Mon dromadaire, il est pas à vendre.
T'as jamais entendu parler des courses de dromadaires? Abu Dhabi, Dubaï.
Le gagnant de cette course a remporté 1 million d'euros.
Je
qu'on trouvait des courses. Jusqu'à Abu Dhabi. Là-bas, il y a la plus grande course du monde.
Tendre Madère, cours vite.
C'est le plus rapide de l'univers.
C'était la bande-annonce d'un de nos coups de cœur, film à l'affiche à Ciné Franco Jeunesse. Zodi et Téhu, frère du désert, sorti en 2023. Du français Éric Barbier, qui s'attelle à la réalisation d'un film d'aventure pour enfants. Une première dans sa filmographie. C'est l'histoire d'un jeune nomade qui entame une folle odyssée pour permettre à son dromadaire de devenir un champion. Zodi, c'est le jeune marocain de 12 ans, vit avec Amina, sa maman, dans le désert du Sahara. Il est le seul enfant de sa tribu à aller à l'école, et un jour, alors qu'il se rend en classe, il tombe nez à nez avec un bébé dromadaire qui a été séparé de sa maman après une attaque de braconniers. Sans tout vous dévoiler, je vous laisse écouter un excellent décryptage du film Zodi et Téhu, frère du désert, en présence du réalisateur Éric Barbier. Un film à voir absolument. Allez sur le site Ciné Franco Jeunesse 2025 pour tout savoir. www.cinefranco.com. Place à France Inter.
Allez, on part au cinéma grand écran pour un film d'aventure, un conte oriental. Et on ouvre avec The Beginning, premier morceau de cette bande originale que vous signez, Mika, pour votre nouveau film, Éric Barbier, Zodi et Téhu, frères du désert. Très belle introduction. Qu'est-ce qui se joue là, d'ailleurs, dans ce départ, Mika?
C'était une sacrée responsabilité, parce que Éric m'a donné cette opportunité de faire une musique de film. Et c'est pas un petit film.
Ah non, c'est un énorme film, une super production.
C'est une super production avec une superbe équipe.
Avec des effets spéciaux.
Et exactement. Ouais. Ça, je l'ai souffert quand même. Je vous explique plus tard pourquoi j'ai souffert.
Ouais, on en parlera.
Mais c'est vraiment ça, j'ai appris vraiment une grande leçon. Attention, parce que ce que vous voyez à l'image, à la maison ou au cinéma, c'est pas du tout ce que nous on voit lorsqu'on est en train de travailler sur le film. Ça, c'est sûr.
Mais quand on fait la musique, c'est peut-être compliqué.
Exactement. Oui. Mais en revanche, là, on a une séquence d'ouverture où on voit des montagnes, on voit ce paysage énorme, massif, aride. On voit un troupeau de dromadaires. On voit un rapport avec la maman, un petit bébé dromadaire. Et tout d'un coup, il y a une disturbance et il y a la méchanceté qui arrive. Donc, et c'est aussi les images du chef-op, Arbogast. Donc, c'est vraiment des très, très, très belles images. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles. Et c'est un moment extrêmement important pour démarrer la trame et toute la dramaturgie de ce film.
Neuvième film pour vous, Éric Barbier, depuis Le Brasier en 91. On a vu en 2020 Petit Pays, l'adaptation du roman de Gaël Faye, La Promesse de l'Aube en 2017. Pour les films précédents, c'est votre petit frère, le compositeur Renaud Barbier, qui signe la plupart des musiques. Vous-même, vous êtes musicien ?
Non, je ne suis pas du tout musicien.
Il n'y a que lui qui a pris la musique, alors ? Vous l'image et lui la musique.
Voilà, mais ça veut dire en même temps, ce qui est difficile, c'est que sur chaque film, en fait, on a un problème quand on réalise un film. On a le problème de quelle est la texture musicale et qu'est-ce que la musique raconte. Et sur ce projet, qui est un film donc pour enfants, qui est l'histoire en fait d'un enfant orphelin qui va découvrir un dromadaire et qui va se rendre compte que ce dromadaire est un grand coureur et qui va finir par faire des grandes courses avec lui. Ce film-là, ce que disait Mika tout à l'heure, ça veut dire que le rapport qui est construit sur une heure et demie ou presque deux heures, c'est entre un enfant et un animal. Le principe, c'est qu'un animal ne parle pas. Donc sur un film pour enfants, on a la musique qui prend une part narrative vraiment très importante. On s'est dit, mais dans la musique de Mika, même si Mika n'avait pas fait ce qu'on appelle une musique de film au sens vraiment une BO, hein, parce que c'est aussi une musique de film, c'est pas des morceaux de Mika qu'on a mis dans le film, c'est un score, c'est dramatique, il dramatise
c'est
les scènes.
Il y a combien de minutes?
Il y a 1h10 de musique.
Il y a 1h10 de musique.
De musique symphonique.
On va en parler justement de ce choix de musique symphonique.
Ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire, donc, le choix aussi de Mika, c'était de travailler, donc, Mika en dehors du talent qu'il a, mais il y avait, dans les musiques qu'il faisait, dans le, il y avait une joie, une énergie, une, un dynamisme. On se disait, mais peut-être que Mika, moi j'avais écouté en plus des versions de certains de ses albums qu'il avait fait avec Simon Leclerc au Canada, où il y avait un retravail de ces morceaux musicalement avec une symphonie et tout ça. On s'est dit, mais pourquoi pas?
On vous en avait proposé, j'imagine, quand même des musiques de films à composer.
Il y avait certaines animations. Et ça m'a pas tenté, les animations, je sais pas pourquoi, au moins, les projets qui étaient offerts, qui étaient proposés. Mais, je me suis dit, si, pour une démarche, si je pars de zéro, je dois vraiment pouvoir construire un geste. Parce que un score doit commencer, doit évoluer, doit avoir toutes ces différentes variations, et ça doit être un journey.
Vous vous souvenez du premier thème apparu pour vous?
J'avais programmé 2 semaines de travail après la tournée américaine où j'allais me concentrer sur la composition des thèmes. Parce que je me suis dit, ok, j'ai commencé avec des musicologues parce que je voulais comprendre la culture berbère.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait aussi cet enjeu-là, oui.
Et parce que je voulais pas faire de l'orientalisme. C'était fondamental de ne pas s'approprier d'une mauvaise manière à cette culture orientaliste. C'était pas du tout ce que je voulais. Et aussi, on a une autre complication, c'est que on a des instruments qui traversent, comme le rebab, qui part de l'Afghanistan, qui vont tout autour du Moyen-Orient, ensuite on les retrouve au Maroc, et ça descend jusqu'à l'Afrique centrale. Donc, un rebab ou un gumbri, c'est complètement différent. Il faut prendre la version qui vient de cet endroit, géographiquement parlant.
Ça veut dire que vous êtes documenté sur la culture berbère, sur les instruments, sur les coutumes, pour pouvoir travailler ce score.
Et sur les rythmes aussi. Et donc, je me suis vraiment... Et comme je viens du conservatoire, et comme je lis pas la musique, je fais tout par l'oreille. Et je fais tout par l'écrit et en lisant des mots. Et pour moi, la musique est très, très, très visuelle. Et peut-être c'est pour ça que j'ai pu me plonger dans une aventure comme ça, sans savoir vraiment ce qui allait m'attendre. Et j'ai commencé avec un sorte de texte. En lisant le scénario, j'ai proposé un concept. Et après, j'ai dû composer les thèmes pour pouvoir ensuite composer à l'image.
On écoute un thème, le thème de TU.
Qui était proposé à San Francisco, dans l'ancien studio de Brian Eno, entre deux Coachella. Et un mauvais Covid.
Ça, c'est chic. Ça, c'est le thème associé à TU, c'est-à-dire donc le thème associé au dromadaire. Vous vouliez savoir quelque chose, Tim Dup?
Oui, je voulais savoir en quelle langue c'était chanté, enfin ce que tu prononçais.
C'est les mots.
Ah, c'est, ok.
Exactement, je voulais pas de langue, en fait c'est ma voix. Et je pensais toujours que j'allais mettre un chœur, et je voulais pas à la fin. Parce que je me suis dit, en fait c'est mon instrument, c'est ma voix, c'est le piano, donc et je voulais des couleurs. Et pas des mots.
Vous lui avez laissé carte blanche, ou vous aviez des attentes, vous aussi, pour ce film?
Mais justement, en fait, donc il y a plusieurs choses. Déjà, ce que disait Mika, qui est une chose très importante, sur l'orientalisme, c'est pour ça aussi que le travail, c'était... Travailler avec Mika, pour moi, c'était... Je savais qu'il allait faire ce travail, cette réflexion, et en même temps, je savais qu'il allait amener quelque chose d'autre sur la musique. Donc c'était d'arriver à trouver ce croisement entre une musique et une musique symphonique, des instruments qui sont des instruments traditionnels de la culture berbère, plus des instruments plus pop, qui étaient la batterie, basse, etc. Et ce croisement est vraiment magique dans le film. Je disais à Mika, voilà, là pour moi il y a une plage musicale. Cette plage musicale, qu'est-ce que c'est? Alors on se disait, qu'est-ce que c'est le sujet? De quoi ça parle? C'est quoi la vitesse? Est-ce que c'est un problème de rythme? Est-ce que c'est un problème narratif? Est-ce que c'est un problème d'émotion? Est-ce qu'on doit renforcer l'émotion? Est-ce qu'on doit faire parler le dromadaire? Parce qu'à un moment donné, par exemple, il a utilisé des flûtes, je sais pas les flûtes que c'est, mais par exemple, c'est vraiment l'appel du dromadaire. Donc on se disait, c'était plus sur quelles sont les émotions que je cherche. Et en fait, Mika avait une liberté là-dessus, de proposition qui était totale. Après, on travaillait, mais c'est lui qui a amené absolument tous les éléments narratifs de musicaux.
C'était une flûte Ney. Et c'est...
Ça vient d'où?
Alors, j'ai trouvé un musicien qui venait d'une tribu berbère et il est venu en France. On a fait un sorte de casting à distance. J'ai appelé tous les contacts que j'avais. Tout le monde pensait que je devenais fou, mais à la fin, on a trouvé ce musicien que j'ai du nez. Mais il est arrivé avec un énorme sac et chaque flûte qui est faite avec du bambou, la cane, peut seulement jouer certaines notes. Dans certaines tonalités.
Hyper sophistiqué, ouais.
Et donc, j'ai passé une journée à la scène musicale, en train de faire parler le dromadaire d'une manière ou une autre, mais aussi avec des choses, parce que je voulais cacher ça dans l'orchestre, comme ça, c'était pas trop évident. Mais en cherchant des sons et des sonorités, des sortes de glissando avec ses neys, je pense qu'on en a utilisé juste pour cette flûte, on en a utilisé plus ou moins 47. Différentes flûtes.
Et pour ce film, vous avez en plus composé des chansons extraits de Feels Like Fire. Des chansons pour le film, c'était prévu, Eric Barbier ?
Alors, c'était... Il n'y avait pas de choses prévues, mais alors, par contre, on parlait de theme track tout à l'heure, le seul theme track que j'ai mis à Mika, c'était sa propre musique. Parce qu'on a fait, à un moment donné, il y a toute une période où il y a une ellipse narrative, dans toute une période du film, on raconte que l'enfant gagne des courses, gagne de l'argent pour partir, et en fait, on a monté ça, et on a mis Stuck in the Middle, qui était un des titres
de
Mika.
Sûr, de Mika, oui.
Et donc, du coup, on se dit, mais ça marche du feu de Dieu. Et donc là, j'appelle Mika, je dis, ça marche du feu de Dieu. Mmh. Et il me dit, ça marche du feu de Dieu, mais je vais faire mieux que ça. Et en fait, il a fait un autre titre qui n'est pas celui qu'on vient d'écouter.
Qui s'appelle,
comment tu l'as baptisé?
No Time to Leave.
No Time to Leave. You say we're together. The future, what it holds, is definitely right. All I want things for sure. What's good is worth the fight.
Voilà pourquoi je voulais qu'on ait tout aussi ce morceau, cette troisième chanson. Parce qu'il y a trois chansons, en fait, hein, c'est ça, dans le score. Ouais.
Et dans l'autre précédente, il y a une fille qui chante avec moi, elle s'appelle Nomfondomo. C'est une chanteuse sud-africaine que j'ai trouvée sur Instagram. Et elle est magnifique. Et donc, si vous la connaissez pas, cherchez Nomfondomo. C'est un petit peu la jeune.
Elle fait de l'afrobeat,
non? C'est la petite reine actuellement de l'afrobeat. C'est une grande star en Afrique du Sud et peu connue. Ici en France et dans le reste du monde, mais ça vaut la peine de la connaître.
Ce sera une des révélations de ce film qui est sorti hier en salle. Mika et Eric Barbier quittent le cinéma, on va se diriger vers le Centre Pompidou où nous attend Christian Marclay.
Et elle revient en pleine forme. Elle célèbre ses 80 ans cette année avec une grande exposition rétrospective. Et pour la première fois de sa longue carrière, elle nous donne accès à ses archives et à ses plus belles créations. Celle qui nous a habitués aux grandes performances vocales et au spectacle de la démesure fait un rare voyage dans le passé. Diane Dufresne donnera une série de concerts cette année. Voyez le spectacle à Belmont au Théâtre des Deux Rives le 26 avril 2025 dans le cadre de la série Soirée théâtrale et du 24 au 29 juin 2025 au Théâtre de l'Atelier à Montréal. Tous les détails sur popourichaud.com. Plongez dans le monde et dans la folie de Diane Dufresne. Cette chanteuse, comédienne, peintre et icône québécoise règne sur un univers farfelu, multiple et déjanté qui a marqué un tournant dans la vie de toute une génération de femmes et d'artistes. Diane Dufresne, chaque dimanche sur CUT 89,5 FM, 38 ans de découvertes musicales et de créations sonores.
Ah!
son jogging.
Pourri Chaud, en partenariat avec Français du Monde, Toronto a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
Popourri Show CUT FM Toronto vous souhaite un bon dimanche. Que nous réservent les réseaux sociaux sous l'ère Trump 2.0? Eh oui, deux poids, deux mesures dans la régulation des médias sociaux aux États-Unis et peut-être dans le monde. Chose certaine, la réélection de Donald Trump aux États-Unis semble amener un vent de changement important dans le paysage des réseaux sociaux. Télécharger TikTok pourrait devenir impossible aux États-Unis, mais il se pourrait que TikTok soit acheté par le milliardaire ami de Trump, Elon Musk. Eh oui. Nous revenons rapidement, madame, monsieur, sur cette folle idée de Mark Zuckerberg. Eh oui, sa vidéo la semaine dernière et son revirement spectaculaire sur la modération de Facebook et d'Instagram pour plaire à Donald Trump et Elon Musk. France Inter, on a parlé cette semaine avec Yanis Vakoufakis, économiste grec et ancien ministre des Finances du gouvernement Tsipras, et Mark Zuckerberg, fondateur, CEO de Facebook.
France Inter.
Le jeudi, c'est la tech, la première, et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18 juin.
Et Stéphane, vous revenez sur cette folle semaine qu'on vient de vivre à cause de Mark Zuckerberg, donc sa vidéo et son revirement spectaculaire sur la modération de Facebook et d'Instagram et son allégeance, pas cachée du tout, à Donald Trump et à Elon Musk.
Oui, cette vidéo, c'est le dernier épisode très spectaculaire d'une série d'initiatives assez grossières prises ces derniers jours par Mark Zuckerberg pour se rabibocher avec Donald Trump. Premier appel du pied, jeudi dernier, il change le numéro 2 de Meta, le britannique Nick Clegg est limogé, pour libérer la place à un républicain, ex-conseiller de George Bush. Deuxième appel du pied, lundi, un très proche de Donald Trump, Dana White, est nommé au conseil d'administration de Meta. Alors Dana White, il a un sacré CV qui vaut le coup d'œil. Il a monté des concours de gifles très spectaculaires. Ah. Je vous invite à voir les vidéos.
Prie, ouais.
Il est connu d'ailleurs pour avoir giflé sa femme en public. Et il a fait fortune en revendant la plus grande ligue de MMA au monde. Plus de 300 millions de dollars. Bref, il ne connaît rien aux médias, rien au numérique, mais c'est un ami de Trump qui a joué un rôle clé dans sa victoire. C'est lui qui lui a présenté Joe Rogan, ancien champion de MMA, podcasteur ultra réac, très populaire aux États-Unis. Dana White était sur scène à côté de Trump au moment du discours de la victoire. Il avait même pris la parole. Je vous traduis, voici ce qui se passe quand le système veut vous anéantir. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter, il va toujours de l'avant. C'est le type le plus résilient que je n'ai jamais vu. Troisième appel du pied, donc la fameuse vidéo de Zuckerberg dans laquelle il annonce la fin du fact-checking, une modération beaucoup plus lâche et le déménagement de ses modérateurs de la progressiste Californie vers le Texas, bastion conservateur. Je crois que le message est clair.
Et alors Stéphane, on ne peut pas comprendre ce rapprochement soudain si on ne se rappelle pas l'état des relations entre Trump et Zuckerberg.
Relation exécrable depuis que Trump a été banni de Facebook et Instagram en 2020. À deux reprises ces derniers mois, Trump a menacé d'envoyer Zuckerberg en prison. Voilà ce que Donald Trump, écrit dans un livre paru quelques semaines avant les élections. J'ai fait lire le passage.
On l'a à l'œil, Mark Zuckerberg, et s'il fait la moindre chose d'illégale, cette fois, il passera le reste de sa vie en prison, comme tous ceux qui seraient tentés de tricher lors de l'élection présidentielle de 2024.
Et voilà ce que disait Donald Trump de Mark Zuckerberg il y a tout juste 2 ans.
Mark Zuckerberg, who used to come to the White House and kiss my ass.
Pas besoin de traduction, Fabien.
Alors, on comprend très bien ce qui se passe en ce moment. Si on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le groupe Meta, que le groupe Meta vit avec une énorme épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
Celle de la Commission fédérale du commerce américaine, FTC, qui veut démanteler Meta et sa situation dominante. La volonté du nouveau locataire de la Maison Blanche va forcément peser sur la suite des opérations, comme sur la décision ou non d'interdire TikTok aux États-Unis. Dans ce contexte, on a demandé à un fin connaisseur de la psychologie de Mark Zuckerberg, le journaliste Julien Lebeau, qui a écrit le livre Dans la tête de Mark Zuckerberg, s'il avait été surpris par sa vidéo.
Oui et non. Oui, ce qui m'a surpris, c'est que je pense que malgré tout, le cœur de conviction qui anime Mark Zuckerberg, qui irrigue son éducation, c'est d'être quand même plutôt sensible aux thèses démocrates. Mais dans le même temps, non, puisque finalement, Mark Zuckerberg a toujours été très brutal quand il s'agit de préserver ses intérêts, n'a pas hésité à brusquer les internautes pour mettre fin à la vie privée. On se souvient sans doute lors de la première élection de Donald Trump que c'était le premier dire que les fake news n'avaient eu aucun impact.
On a aussi posé la question à Olivier Alexandre, sociologue spécialiste de la Silicon Valley, et lui trouve l'initiative plutôt logique, assez maligne, pour peu qu'on se mette à la place de Mark Zuckerberg.
Mais alors peut-être, mais en attendant, ce sont les réseaux sociaux qui trinquent, Stéphane, et fini les espoirs de modération.
Oui, triste constat qui nous a donné envie d'appeler Yanis Varoufakis, l'économiste, ancien ministre grec, vient d'écrire un pamphlet contre le techno-féodalisme actuel. Alors, comment a-t-il vécu cette vidéo du patron de Meta ?
Je pense que c'est une bonne chose qui vient de se passer, si ça nous permet de voir la réalité en face. Car si on continue de vivre avec l'illusion que nos institutions, l'Union européenne, la Commission, les tribunaux et tout ça contrôlent vraiment notre débat public, eh bien on est en train de tuer dans l'œuf tout espoir de faire revivre nos démocraties.
Pour lui, ce n'est pas un problème de personne, ces réseaux sont toxiques par essence.
La désinformation, la haine en ligne, la façon dont ces plateformes ont pollué notre espace public, ça n'a pas commencé avant-hier. C'est une économie et ce business ne fonctionne que s'il est toxique. Ça a été comme ça du jour où ces plateformes ont été monétisées. Ce n'est pas une histoire de Zuckerberg, de Musk ou de Trump. La nature même de ce capitalisme, de ces algorithmes, de ce monde, c'est d'empoisonner notre démocratie.
Alors, est-ce qu'il y a une solution pour nous sortir de l'ornière ?
Alors oui, il en a une, assez inattendue.
Nous devons créer des concurrents européens aux géants de la Silicon Valley, comme on l'a fait avec Airbus, pour contrer le monopole de Boeing et de McDonnell Douglas. On a réussi ça, et maintenant Airbus est passé devant Boeing. Nous avons besoin de mettre de l'argent, un gros paquet d'argent, pas des produits de l'imagination d'Ursula von der Leyen, pour monter des alternatives à Google, Amazon et Facebook.
Car l'enjeu, pour lui, c'est ça.
Garder le contrôle sur les algorithmes. À la fin du fin, vous ne pouvez pas contrôler les algorithmes si vous n'y avez pas accès. Donc ce serait un changement vraiment considérable pour garder notre souveraineté en tant qu'Européens qui veulent pouvoir garder la main sur leur débat public.
Yanis Varoufakis ne le cache pas, on va de défaite en défaite, ça le rend triste, mais dit-il, il faut rester debout et se battre.
Stéphane Jourdain, merci beaucoup.
Et oui, de retour dans les rues de Fort-de-France, le carnaval de Martinique. Merci à France Inter pour cette excellente émission. Comme tant d'autres milliardaires, Mark Zuckerberg, PDG de Meta Facebook, opère un virage à 180 degrés. Je suis un peu surpris, pour tout vous dire. Oui. Doit-on quitter Facebook ? Que feriez-vous à ma place ? Allez, écrivez-moi, j'ai une petite surprise pour vous. Popourri@cut.fm. À quelques heures de l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, l'Europe et plusieurs pays africains sont aux aguets. Pourquoi Trump fait-il si peur ? Il lève le petit doigt et tout le monde panique. Eh oui, faut le faire, hein ? Le Canada, 51e État américain, et la menace de tarifs douaniers par Trump
vont avoir des répercussions majeures sur l'économie et la culture du Canada. Et oui, quelle sera la place des francophones et du français dans tout ça? Faudrait peut-être qu'on pense à annexer le Québec à la France, ou peut-être que le Québec soit enfin indépendant, une fois pour toutes. Ah ouais, c'est à réfléchir. Demain, jour J, les Trumpistes au pouvoir. Mais la riposte, la résistance s'organise un peu partout aux États-Unis. Un documentaire diffusé sur Arte cette semaine, c'était le 15 janvier, nous a surpris, oui, des journalistes se sont infiltrés au cœur d'une communauté américaine qui s'affronte lors de l'élection d'une commission scolaire à Elizabethtown, en Pennsylvanie. Un vrai bijou d'émission. Pour ma part, je retourne au soleil. Il fait 38 degrés Celsius à Fort-de-France, Martinique. Un immense merci à DJ Nouvera et tous les sponsors, les opérateurs touristiques qui ont facilité ce déplacement. Les techniciens de Hot House Studio, mille merci. Merci à Marceline, la reine du cinéma, notre amie de toujours, du Festival Ciné Franco Jeunesse, à ne pas rater, mesdames, messieurs, à retrouver sur popourichaud.com. Merci au bistrot local 1794, local 1794 sur la rue d'Enforth. Tirage au sort d'un repas pour deux. Allez, écrivez-moi. Francophonie en fête. Bonjour printemps. En mars, ne pas oublier, tirage au sort des milliers de concerts. Merci à la précieuse collaboration en direct de Tunisie. Taoufik Abayeb, PDG du magazine numérique Leaders, éditeur de Transculturalisme et Francophonie. Dernier livre de notre ami et poète et écrivain Eddy Bouraoui, à qui je salue chaleureusement. Et enfin, ne manquez pas la première conférence de l'année du CREFO, Différences individuelles et acquisition du français langue seconde à tierce, de Jeffrey Steele, professeur titulaire au département des études langagières de l'Université de Toronto à Mississauga. Vous retrouverez tous les détails sur notre site popourichaud.com. C'est prévu pour le mardi 21 janvier à 17h30 en mode hybride ou 252 rue Blois-Ouest. Tous les détails donc sur le site du CREFO ou popourichaud.com. À tous les auditeurs de France, de Québec, de Tunis, d'Haïti et des États-Unis, de l'île Maurice, un immense merci pour vos nombreux messages et vos réactions sur nos réseaux sociaux cette semaine. Bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous. Allez, place au soleil et les couleurs du carnaval de Fort-de-France, l'un des plus beaux carnavals du monde. Dimanche prochain, je vous invite à me suivre en Guadeloupe. Ciao, ciao, ciao.